7-9 de Matin Première.
Il est 7h47, bonjour Thomas Guedes.
Bonjour à toutes et tous.
On parle du décret paysage. Que va-t-il se passer aujourd'hui lors de la dernière séance du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles? La majorité se déchire et le patron du gouvernement, Pierre-Yves Géolet, notre invité ce matin.
Oui, le MR qui s'oppose au changement mis sur la table par le PS et Écolo, passage en force donc de certains partenaires sur cette réforme du décret paysage. Qu'est-ce que ça aura comme conséquence sur d'autres textes? Pierre-Yves Géolet avait dit que son gouvernement était en affaire courante. Ça veut dire que plus aucune décision ne sera prise jusqu'aux élections.
Bonjour Pierre-Yves Géolet.
Bonjour.
Est-ce que le MR va jusqu'à la dernière minute tenter de bloquer ce texte PS écolo au Parlement? Est-ce que vous allez, par exemple, réclamer un avis du Conseil d'État?
Vous savez, moi je suis un légaliste et je veux une sécurité juridique par rapport à un texte. Je constate aujourd'hui que c'est le chaos. C'est le chaos dans l'enseignement supérieur. Certains ont voulu mettre le feu à cette grande maison de l'enseignement supérieur. Et je vois que des critiques aujourd'hui. Et on l'avait dit, il y a eu beaucoup d'improvisation, beaucoup d'amateurisme. Je rappelle quand même qu'il y a eu aussi une trahison, une déloyauté à l'égard du MR avec un vote, une majorité alternative avec l'extrême gauche, avec le PTB, contrairement à ce que le président du PS a pu affirmer. Et donc, oui, nous allons tout faire pour que, ce texte ne se passe pas, parce que c'est un mauvais texte, c'est un retour en arrière. Je rappelle que la réforme Glatigny, elle est bénéfique pour les étudiants, on en reparlera certainement, et donc c'est un retour en arrière, et probablement aussi une philosophie de l'enseignement différente entre le mouvement réformateur et les partis de gauche.
Parlons de ce qui va se passer au Parlement, donc cet après-midi, qui est quasiment cette nuit, hein. Est-ce que vous allez donc déposer un amendement pour solliciter un avis du Conseil d'État? Ça veut dire quoi? C'est de la flibuste? Vous allez tout essayer de geler les discussions? Il faut 30% des votes, vous les aurez probablement pas.
Mais on verra, vous savez, demander un avis au Conseil d'État, ce n'est pas de la flibuste. J'ai quand même une expérience de parlementaire, j'ai vu qu'on demandait des avis du Conseil d'État pour des textes beaucoup moins importants, et parce que ça concerne ici les étudiants. Alors, vous savez, demander un avis du Conseil d'État, quand je prends l'exemple du pacte d'excellence, même on concerte avant de passer au gouvernement toute une série d'acteurs. Ici, l'amendement PS écolo soutenu par le PTB, il n'y a eu aucune concertation, aucune audition, aucun avis du Conseil d'État, et donc c'est pas comme ça qu'on travaille. Et pourquoi c'est le chaos aujourd'hui? Parce que des présidents de partis ont fait preuve d'amateurisme et d'improvisation dans une réforme importante.
Dépôt donc d'un amendement pour tenter de solliciter le Conseil d'État. Vous devez signer ce décret en tant que patron du gouvernement, Pierre-Yves Géolet, alors que vous vous opposez à ce décret qui risque probablement de passer. PS, écolo, PTB votent pour et voteront toujours pour en séance plénière. Constitutionnellement, vous allez respecter, entre guillemets, la Constitution?
Chaque étape, évidemment, à la fois, et ici, on est dans une étape parlementaire. Il y a eu une volonté du PS et des écolos de nous trahir, de faire une majorité alternative et de retirer en fait la solution qui pouvait être apportée par rapport aux étudiants qui sont dans une trajectoire de réussite et qui probablement à la rentrée seraient finançables à travers une circulaire. On l'a fait. Françoise Berthiaud, la ministre de l'enseignement supérieur, l'a fait. Et donc quand on a voulu confisquer au gouvernement, à cause des présidents de parti, que chaque fois qu'ils sont occupés d'un problème à la Fédération Wallonie-Bruxelles, ça a été le chaos et ça a été un problème. Et donc ici, c'est le Parlement, on verra bien, le texte reviendra au gouvernement et on verra bien ce que l'on fera.
Vous ne dites toujours pas ce matin si à un moment donné ce texte arrivera sur la table du gouvernement, vous êtes censé vous le signer ou la ministre, or les deux personnes s'opposent.
Chaque chose en son temps, je l'ai dit, je suis un légaliste, je ne veux pas non plus
rajouter du chaos. Ces deux visions de l'enseignement, vous dites, qui s'opposent via cette bataille politique, quelles sont ces visions qui s'opposent selon vous? Une vision d'ascenseur social et quoi? Écoutez, la culture du mérite, comment sortir du coup des clichés aussi?
Mais d'abord, je pense qu'il y a eu beaucoup de chiffres mensongers par rapport à la situation, et la FEF a donné toute une série de chiffres qui étaient de vrais mensonges. Et quand on utilise ces chiffres comme les formations politiques, le PS et que le PTB, on est complice de ces mensonges aussi. Et donc, à un moment donné, par rapport à un texte qu'on a voté il y a à peine 2 ans. On n'a pas encore les chiffres aujourd'hui. Et ils ont choisi de donner un signal très mauvais
aux
étudiants.
Quel est le signal? Ça veut dire quoi?
Le signal aux étudiants.
Ceux qui sont en difficulté ne peuvent pas réussir.
Il y a d'abord un signal par rapport à ceux et celles qui vont rentrer en session. Ici, il y a une session au mois de juin, il y aura une session au mois de septembre. Et donc de dire, finalement, que vous réussissiez, que vous ratez, vous serez finançable l'année prochaine. Quel mauvais signal. Alors, vous savez, eux ont probablement une philosophie de l'école de la démagogie où tout le monde va réussir. Nous, l'EMR, on a une philosophie d'inscrire les étudiants dans une trajectoire de réussite et de remettre, que ce soit dans l'enseignement obligatoire ou dans l'enseignement supérieur, des valeurs essentielles, comme le travail, comme le mérite, comme l'effort. Ça, c'est évidemment indiscutable et innégociable pour l'EMR.
Pierre-Yves Jollet, le monde de l'enseignement supérieur, en tout cas, se mobilise. Professeurs, assistants, dénoncent ce texte PS écolo. D'autres sont plus nuancés, estimant qu'on doit faire un geste par rapport à la génération Covid. C'est le cas de Marius Gilbert, vice-recteur ULB à la recherche. Il était l'invité de cette matinale il y a quelques instants.
Il n'est pas du tout question de baisser les critères d'exigence. C'est vrai qu'il y a un risque pour certains étudiants qui restent plus longtemps dans le système. J'ai le sentiment, malgré tout, que par rapport à cette génération-là, je trouve que la société peut à un moment dire « ben voilà, maintenant on va vous donner un petit coup de pouce dans un moment qui est compliqué pour vous ». Et encore une fois, on ne revient pas sur le fondement de la déforme, c'est juste on donne un petit peu de temps en plus.
Vous hochez de la tête, ça veut dire que vous n'êtes pas d'accord?
Je ne suis pas d'accord parce que d'abord, le changement proposé par la majorité alternative radicale de gauche, elle change structurellement la réforme. Ce n'est pas uniquement un moratoire, c'est aussi un changement en étant moins exigeant. Non, moins exigeant sur certains critères. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, d'abord, il y a eu un moratoire suite au Covid, où tous les étudiants ont été considérés comme finançables pendant une année.
On se rend compte qu'il y a quand même une génération...
Troisième élément.
Non, mais juste pour que ce soit précis pour les parents qui nous écoutent, on n'est pas en train de revoir l'ensemble des critères ad vitam. C'est pour une période temporaire.
Il y a des critères dans la réforme structurelle qui vont changer. Ça, c'est un élément. Le deuxième élément, c'est que à travers la circulaire de la ministre de l'Enseignement supérieur, on pouvait corriger certaines situations et donner au jury plus de liberté. C'est l'objet du décret que nous avions voté pour avoir des dérogations par rapport à certains étudiants dans une trajectoire de réussite pour qu'ils restent finançables.
Donc comment vous expliquez-vous alors? Campagne électorale?
Mais évidemment, c'est de la démagogie et c'est de l'électoralisme en plein. On a voulu jouer sur le stress des étudiants et des parents. Et en fait, on a fait bien pire aujourd'hui. On est dans une situation vraiment d'imbroglio, de chaos total. Et à un moment donné, je ne sais pas comment on va en sortir.
Et est-ce que ça va faire tache d'huile, Pierre-Yves Jollet, sur d'autres dossiers? Avant la séance plénière cet après-midi au Parlement de la Fédération Wallonne-Bruxelles, il y a des commissions dans ce Parlement, c'est la fin de la législature, hein, tout s'accélère. Et il est notamment question d'une réforme sur les bâtiments scolaires. Une enveloppe de 300 millions pour rénover les écoles partout en Fédération de la Wallonie-Bruxelles. Il y a là un déséquilibre, les chiffres le montrent, entre des enveloppes qui iront pour l'enseignement officiel, les bâtiments d'enseignement officiel, et l'enseignement du libre. Est-ce que ce dossier va aussi être bloqué au Parlement?
Alors, ce n'est pas l'objet du décret. Le décret, aujourd'hui au Parlement, c'est de réformer les fonds des bâtiments scolaires en créant ce qui n'existe pas aujourd'hui, un fonds et l'alimenter pour l'enseignement libre. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'il y a eu un décret de financement exceptionnel, 1 milliard d'euros, et il y a eu un premier appel à projet de 300 millions d'euros. On a les résultats aujourd'hui, et on constate que 83% vont pour l'enseignement WBE, de l'enseignement de la communauté française, alors qu'il ne représente que 16% des étudiants. Et donc là, il y a un vrai déséquilibre avec les autres réseaux, et c'est pourquoi le mouvement réformateur, puisque c'est au Parlement aujourd'hui, déposera des amendements pour rééquilibrer, ce fonds exceptionnel d'un milliard en faveur des autres
réseaux. Un dossier qui est porté par le socialiste Frédéric Dardenne, ça veut dire que sur ce coup-là, le maire va aussi revoir la copie du gouvernement?
C'est un projet porté par le gouvernement. Je pense que ce gouvernement, parce que c'est des fonds, on a accepté les fonds, c'est le gouvernement qui a investi beaucoup dans les bâtiments scolaires, parce qu'investir dans les bâtiments scolaires, c'est investir aussi pour les étudiants.
Mais ça veut dire que le maire n'est pas d'accord sur ce qui arrive sur la table du Parlement?
C'est qu'à un moment donné, par rapport à l'appel à projet ici, dont on a eu les résultats, on constate qu'il y a un déséquilibre auquel on ne s'attendait pas, et donc il faut le corriger. Mais je pense que ce gouvernement est un gouvernement qui n'a jamais autant investi dans les bâtiments scolaires. Il y a eu beaucoup d'effets d'annonce par le passé, pendant des dizaines d'années, mais il n'y a jamais eu de concrétisation. Et on s'aperçoit aujourd'hui que les bâtiments scolaires sont dans un état très très mauvais et que les investissements sont indispensables. Mais il faut un équilibre entre les réseaux. Je rappelle que en termes de fonctionnement aussi des réseaux, accord de la Saint-Boniface 2001, c'est grâce au MR que sous cette législature, on a pu rééquilibrer.
Pour bien comprendre, Pierre-Yves Viollet, le jeu politique, ça veut dire que vous déposez un amendement pour.
Vous savez, je suis ministre-président.
De dynamique politique. On va parler de ça comme ça. Pour bien comprendre ce qui va se passer. Donc, ça veut dire que vous déposez un amendement pour faire évoluer le texte, hein, pour rééquilibrer entre les réseaux. Mais ça veut dire que si cet amendement passe pas, vous bloquerez ce texte-là?
Non, parce que nous l'avons voulu. L'avons voulu, c'est le maire qui l'a voulu, et on en a négocié, on en a déjà discuté au gouvernement par le passé, que ce déséquilibre ne pouvait pas, évidemment, rester sans correction. Et donc, moi, j'ai le sens des responsabilités, contrairement, à d'autres présidents de partis qui ont mis le feu à la maison, moi, j'ai le sens des responsabilités, donc je ne prendrai pas des décisions qui vont pénaliser certains secteurs de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Vous aviez dit que vous étiez en affaires courantes avec votre gouvernement, et pourtant, on voit qu'il y a quand même des dossiers qui passent.
Non, c'est un dossier au Parlement aujourd'hui.
Il y en a d'autres qui doivent encore passer au gouvernement.
Vous savez, on a l'attribution des 300 millions d'euros, la première phase. On a aussi des hôpitaux universitaires avec un plan d'investissement ambitieux qui attend des réponses rapides. Et donc, nous prendrons nos responsabilités, comme je l'ai toujours fait. Lorsque j'ai été un ministre-président souvent au-dessus de la mêlée, j'ai toujours été loyal, même quand il y avait des milliers de professeurs et d'enseignants qui manifestaient dans la rue contre le pacte. Moi, je n'ai pas remis en cause toutes les réformes qui avaient été votées au gouvernement. Certains n'ont pas eu la même loyauté.
Et justement, Pierre-Yves Viollet, les profs de primaire et de secondaire ont encore manifesté dans les rues de Bruxelles pas plus tard que mardi dernier. C'est une législature qui se termine dans la colère pour le monde enseignant. Comment vous l'expliquez ?
Non, parce que c'est les syndicats. Je pense que les syndicats ne représentent plus aujourd'hui les enseignants. Alors il y a des enseignants.
Évidemment. Ça veut dire que les enseignants sont pas en colère? Vous avez le sentiment qu'ils s'opposent pas à
certaines réformes? En fait, ils ont eu énormément et je les salue ici vraiment leur travail. Et moi, je visite beaucoup d'écoles, je vois beaucoup d'enseignants motivés, enthousiastes, passionnés. Mais il y a eu la crise Covid. Ils ont beaucoup souffert et ils ont fait preuve, d'une motivation, exemplaire. Mais aujourd'hui, il faut constater que le problème du pacte, c'est beaucoup de réformes trop vite. Et on va les évaluer. Il faudra peut-être une pause, de la simplification administrative, mais l'école, elle est le reflet de la société. Et donc, il y a plus de violence, il y a plus de harcèlement, il y a la déresponsabilisation des parents. Il faut aussi remettre le respect au cœur de l'école, le respect de l'enseignant, le respect du directeur d'école. Et donc, ça, ce sont des réformes aussi que nous devons mener. Si on veut augmenter la qualité de notre enseignement par rapport aux moyens publics investis, parce que ça, je me porte à faux par rapport aux syndicats, on a investi avec le pacte 1,5 milliard de 2019 à 2023, 3 400 équivalents temps plein supplémentaires. Donc moi, je veux bien réformer encore l'enseignement, mais sans tabou, et je pense que les syndicats en ont beaucoup trop aujourd'hui à l'égard de l'enseignement.
Vous dites j'ai été loyal justement face à cette colère du monde de l'enseignant, ça veut dire que quoi? Vous auriez voulu, vous, MR, à un moment donné, ralentir un peu le rythme de ces réformes? C'est ce que vous allez mettre sur la table éventuellement du prochain gouvernement?
Vous savez, on n'a jamais caché que la réforme et l'allongement du tronc commun, c'était pas nécessairement...
Élément qui pourrait être remis en cause pour la prochaine législature.
Je pense que, vous savez, nous, on ne l'a pas fait jusqu'à présent. On a été loyaux, nous n'avons trahi personne, mais pour les prochaines négociations, il faudra évaluer le pacte, voir comment on peut réorienter certaines réformes et de voir aussi la trajectoire budgétaire de ces réformes.
Voilà, situation politique de chaos total en Fédération Wallonie-Bruxelles. Ce sont vos mots, Pierre-Yves Viollet.
Ce n'est pas moi qui l'ai voulu, ce n'est pas le MR qui l'a voulu.
Ranimé,
c'est dommage parce que
ça va durer.
C'est probablement un des gouvernements qui a le mieux travaillé sous cette législature. Mais voilà.
Merci beaucoup, Pierre-Yves Viollet, ministre-président MR de ce gouvernement de la communauté française.
Merci à vous. Bonne journée.
Pour écouter en podcast. Merci à vous, Thomas Galisseux.
Retrouvez tous les podcasts de la RTBF, dont de nombreux inédits sur RTBF Ovio.